Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la cinquième et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles, peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement, pour vraiment montrer que l'échec, c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on enregistre à la maison toujours avec Jérémy Goualo. Salut Jérémy.
Salut Enzo.
Ça va bien? Bah au top, mec.
Très belle vue.
Sympa, hein, on est bien ici.
Hein. On est bien reçu.
Content que...
Je crois que j'étais confiné la première fois qu'on avait discuté.
De ouf, t'étais dans une chambre en Colombie.
Panama,
t'étais au Panama. Un bordel.
Positif au fameux Covid et on a réussi à le faire.
Et bah, très content qu'on soit là aujourd'hui dans cette fin d'année qu'on enregistre. On va savoir pourquoi on a mis aussi autant de temps. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on enregistre que maintenant, qui sont très cool, qui font partie du sujet. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui écoutent?
Parfait. Jérémy, 26 ans, originaire du sud de la France. L'accent me trahit.
Ça s'entend pas.
Parfois. passionné de la tech et du voyage. Je pense que ça sera un bon mix de cet échec. Regroupe les deux. J'ai travaillé, j'étais le premier stagiaire d'une licorne française. J'ai vécu ce qu'on voit vraiment dans la tech, de passer de 4 à 400 en moins de 5 ans. Et aujourd'hui, je suis vraiment passionné toujours par la tech et je rêve d'entreprendre et me prépare pour entreprendre à nouveau.
Et cette boîte du coup dont tu parles, c'est Spendesk, pour ceux qui connaissent.
Spendesk, exactement. Un logiciel pour les entreprises.
Trop bien. Top Jérémy, avant qu'on rentre dans le vif, est-ce que tu peux nous donner toi ta vision, ta définition de l'échec?
Je pense qu'un échec, c'est quand tu n'arrives pas à avoir quelque chose que tu veux vraiment. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur dans l'échec.
De ne pas voir.
De ne pas pouvoir l'atteindre. C'est souvent quand on se fixe un objectif, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'avoir. Souvent, il y a beaucoup d'échecs, mais ils sont subis, tu vois. Et je pense qu'ils n'atteignent pas vraiment. Mais quand tu veux vraiment quelque chose et que tu n'arrives pas à l'avoir, ça fait mal. Ça fait mal et ça laisse des traces. Et là, tu te considères vraiment un échec. Parce que sinon, c'est plutôt des ratés. Je pense qu'on en a plein des ratés. Je pense que la majorité des gens ont des ratés. Mais quand tu veux vraiment quelque chose et que tu travailles fort et que tu n'arrives pas à l'avoir, là, c'est un échec.
Tu en as un beau à nous compter aujourd'hui. Je pense du coup, la définition, elle va te pair avec ça. On va rentrer dans le vif direct. Donc, on a un peu introduit au départ. Donc, toi qui t'étais, tu as bossé chez Spendesk pendant 5 ans. Tu étais dans les premiers.
C'est ça, je suis arrivé, j'avais 20 ans. Comme toutes les startups, ton rôle est un peu. Tu fais tout quoi, au début. Donc, du customer, de la relation client au commercial, au marketing. Et après, moi, je me suis spécialisé sur tout ce qui était l'acquisition. Donc, comment trouver des clients et comment les faire acheter notre solution. J'ai monté mon équipe, je suis devenu manager. On a bien grossi, on a ouvert des bureaux en Allemagne, en Angleterre. Et la boîte commençait à bien grossir. On devait être 120, 150. Et là, tu commences à te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi. Est-ce que j'ai oublié de préciser, mais moi, depuis tout petit, je pense que les gens me rencontrent. Moi, je rêve des États-Unis. Tu vois. J'ai grandi dans un quartier au sud de Toulouse. Et tu as ce rêve américain, je pense, beaucoup par la télé, beaucoup par la musique, beaucoup par la culture. Et j'avais jamais voyagé, mais je voulais toujours, tu vois, aller aux États-Unis. Je savais pas ce que c'était, les États-Unis. Je savais pas ce qu'était New York. Je savais pas ce qu'était San Francisco. Mais j'avais ce rêve-là. Après, j'ai toujours été un peu geek, tu vois, quand j'étais jeune. Très vite, tu sais, il y a le film sur Zuckerberg. Tu commences à voir un peu ce qui se passe dans la Silicon Valley. Tu lis le biopic de Steve Jobs et tu dis, OK, c'est mon monde, en fait. C'est des nerds qui taffent, qui montent des boîtes. Et donc, ouais, j'ai toujours eu cette accroche. Et je pense que tous les gens qui m'ont rencontré quand j'avais 18, 19 ans, je leur dirais, à 25 ans, je serai à San Francisco. J'aurai une boîte à San Francisco, quoi. C'était ça, mon rêve, quoi. Et... comme dans ta vie, tu vois, tu fais des choix. Tu sais, t'as beaucoup de croisements. Est-ce que tu tournes à droite? Est-ce que tu tournes à gauche? Et voilà, j'ai fait des choix qui m'ont éloigné. Mon premier stage, du coup, il est resté à Paris. J'ai arrêté l'école, j'ai rejoint Spendesk. J'ai continué. Mais j'avais toujours ça en tête, quoi. Et à partir de 2019, la boîte a bien grossi. tu tournes un peu en rond, ça fait 3 ans que tu es dans ton job et tu te dis qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et donc, sur un coup de tête, je prends un billet d'avion, je prends 10 jours de vacances, je pars à San Francisco, je me loue un hostel, tu vois, pendant 10 jours et je rencontre, je passe des entretiens là-bas, je rencontre des boîtes. J'étais encore, tu vois, chez Spendesk, j'étais en vacances. Et je retourne à San Francisco et ouais, et là tu te dis putain, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai rencontré, tu vois, des directeurs financiers qui sont les clients potentiels de Spendesk. Donc là-bas, j'ai pris 3-4 cafés avec des directeurs financiers. Et donc je suis rentré à Paris, j'ai été voir mon boss et je lui ai dit ben voilà, je veux me barrer aux États-Unis. J'ai passé des entretiens, j'ai presque des propositions. Mais voilà, en parallèle, j'ai aussi rencontré des directeurs financiers et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Spendesk là-bas. Et ça m'est un peu tombé dessus. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne lances pas Spendesk aux États-Unis, quoi? Et donc, mai 2019, je me retrouve à retourner au San Francisco, du coup, avec mon sac à dos, mon Mac, mais avec une autre casquette, celle de lancer Spendesk aux États-Unis, quoi. Donc, tu concrétises ton rêve. Tu vois, la symbolique, c'est quand ta boîte te paye le billet d'avion pour aller aux États-Unis, ben, tu dis, putain, ça y est, je l'ai fait, quoi. Ça y est, tu as ton job title, tu as ton premier contrat américain, tu as tout. Et là, tu dis, ça y est, j'ai 24 ans, j'ai réalisé le rêve, quoi. Donc, je fais pas mal d'allers-retours au début en touriste. Et après, on commence ta procédure d'immatriculer la boîte aux États-Unis et d'embaucher un avocat, commencer pour le visa. Et c'est là que les galères arrivent, quoi, l'immigration américaine. Il y a le rêve américain et il y a la réalité américaine. Et si tu veux, je te fais un peu le détail pour comment c'est monté en puissance et comment, en fait, à chaque étape, tu te rends compte que ça va être compliqué et qu'il va falloir réagir.
Ça, c'était avant Covid, donc. Hein,
c'était avant Covid.
C'était 2019, genre,
exactement,
tu débarques là-bas.
Donc on commence en septembre à monter un dossier. Mauvaise avocate. Un dossier qui prend 3 semaines, normalement, parce que, tu vois, on monte une boîte aux États-Unis. Je suis le dirigeant de cette boîte américaine. C'est les visas L1, pour être technique, ultra rapide. Voilà, mauvaise avocate. Comme quoi, il faut toujours s'entourer et pas lésiner sur les moyens quand tu travailles avec des avocats. Ça prend un peu plus de temps que prévu, 3-4 mois. Le dossier est mal monté, où j'ai un premier refus. Tu vois, c'est assez symbolique, le 30 janvier, donc c'est la veille de mon anniversaire, quoi. La veille de mes 25 ans, j'ai mon dossier pour le visa qui est refusé une première fois. Donc là, tu prends un petit coup, quoi. Mais je continue à y aller en touriste, en fait. Après, on fait appel, le visa est refusé logiquement une deuxième fois. Je change d'avocate. Nouvelle avocate, elle monte un dossier en 10 jours, vraiment une tueuse, quoi. Je pars aux États-Unis m'installer au début en touriste et on se dit, ben voilà, le temps que t'es le visa travail, on aura juste à changer et c'est bon, quoi.
Et combien de temps un visa touriste?
Un visa touriste, tu peux faire 3 mois sur le sol américain et tu peux tirer jusqu'à 4 mois et demi, quoi, si tu sors et tu reviens. Donc j'avais le temps, tu vois, on était en février, en un mois j'avais mon visa. Et donc j'arrive à San Francisco le 29 février 2020. Je prends un appart sur un bail de 3 mois et le 6 mars 2020, San Francisco est confiné. On fait une semaine confinée, on ne sait pas tout ce qui va se passer, quoi. C'est drôle à posteriori. Et je crois le 14, tu as Trump qui prend le micro et qui dit « je ferme les aéroports pour 2 semaines ». Et donc toi, tu es avec ton visa touriste aux États-Unis, tu attends ton visa travail et tu as l'avocate qui dit « faut que tu dégages ». faut que tu quittes le sol américain, tu vas être clandestin et ça, après, t'es banni des États-Unis, quoi. Donc voilà, je prends un premier avion vers la Martinique, qui est le territoire français le plus proche. Donc au final, t'as 2 heures de Miami, donc on se dit, tu fais 15 jours en Martinique, il y a pire. Et après, tu reviens, tu te fais tamponner ton visa et tu retournes avec ton visa travail. Sauf qu'après, rien ne s'est passé comme prévu, quoi. Je suis arrivé, ils ont fermé l'aéroport, donc je suis resté 3 mois en Martinique seul. J'étais le seul touriste sur l'île. Donc, t'es au paradis. Donc, tu sais, t'as un peu ce prisme Instagram. C'est, ouais, j'étais confiné dans une villa au bord de la mer, mais t'es confiné seul au monde, quoi. Seul, loin de tes potes, loin de ta famille, loin de tout. Et t'es privilégié. Tu vois, il y avait très peu de Covid en Martinique, donc t'as pas peur. On n'a pas eu de masque pendant 3 mois. Enfin, il n'y en avait pas, de toute façon. Donc, ouais, ça a été très dur. Tu vois, tu te lèves et les journées sont longues. Les journées sont longues, confiné seul dans une baraque de footballeur. Tu vois, les journées sont très longues et tu cogites et tu commences, en fait, pour la première fois à te dire, mais en fait, j'irai jamais aux États-Unis. Genre, tout est contre moi, tu vois.
Ça, tu le savais déjà. C'est déjà un truc que tu te disais quand t'es arrivé.
Tu te le dis, mais là, t'as quand même le monde est parti en couille, tu vois. T'as le Covid qui est arrivé, t'as tout. Tu te dis, c'est pas possible. Pourquoi ça se passe maintenant, quoi. Donc, tu te fais une idée. Tu commences à l'avoir dans ta tête. Mais derrière, tu te dis, c'est tellement exceptionnel. qu'on va y arriver, quoi. Et le monde va retourner, va se remettre et on va y arriver. Au final, j'ai mon visa pendant que je suis confiné. Je pense au bout d'un mois et demi, je reçois la notification. C'est un magnifique papier, un peu comme les dollars, tu vois, un énorme papier A4. Tu reçois l'avocate, vraiment une avocate que je recommanderais à tout le monde, même si l'histoire est folle. Mais... Donc voilà, tout se passe. Le problème qu'on a, c'est que quand tu as un visa, tu dois aller en ambassade, ce qui te le tamponne sur ton passeport, en fait. Les ambassades sont fermées pour raisons sanitaires. Et il n'y a plus d'aéroport, donc je suis bloqué sur l'île de la Martinique. Donc on attend, l'aéroport rouvre le 22 juin, donc il y a des premiers vols pour Paris, l'ambassade est en train de réouvrir aussi. Donc voilà, on arrive à se mettre 2-3 scénarios pour trouver une ambassade ouverte. Et la veille de mon rendez-vous à l'ambassade, la veille de prendre l'avion, il y a, à l'époque c'était tweet, hein, il y a un tweet de Donald Trump qui dit qu'il frise les visas immigrés, quoi. Donc, bon, il insulte un peu les Chinois au passage et il bloque ton visa. Donc du jour au lendemain, ton bout de papier... Tu le déchires, il ne vaut plus rien. Quoi. Donc là, tu as tout le monde qui se met au... Donc tu as Google qui fait appel parce qu'ils ont des millions... Enfin, il y a des millions de travailleurs américains qui ont ce visa-là, qui sont soit bloqués en dehors des États-Unis, soit qui ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. Donc c'est un vrai problème, quoi, pour le marché du travail américain, notamment dans la tech, qui sont dépendants des travailleurs étrangers. Quoi. Donc pareil, on essaye, on fait des appels. Il y a des gros procès qui sont faits en termes de l'immigration américaine et tout ça. Il y a des failles pour réussir à avoir des visas, quoi. Parce qu'en fait, on a le visa qui est validé, mais il n'est pas dans ton passeport. Et s'il n'est pas dans ton passeport, tu n'as pas le droit d'entrer aux États-Unis, quoi. Donc, on a tous des visas valides, mais on ne peut pas aller aux États-Unis, quoi. Donc, voilà, ça prend moins. Donc là, on est en juin jusqu'en décembre, tu vois, 2020. Je fais des allers-retours avec le Mexique. Parce que du coup, j'ai monté une équipe, j'ai des clients. Enfin, ça tourne les États-Unis sans moi, quoi. Donc, j'ai réussi à le faire, ça tourne, mais moi, je suis
avec que des Américains là-bas. T'étais le seul à être parti, du coup.
Ouais, j'étais le seul parti, enfin, qui avait besoin de ce visa-là. Et derrière, t'as des clients, t'as des employés, et t'es le seul lien entre la boîte mère et la filiale, quoi. Donc, je vivais au Mexique, à Mexico City. Tu vois, pareil, j'avais l'impression limite d'être en cavale, tu vois. Je changeais de carte SIM tous les deux semaines, j'avais des Airbnb. Donc, c'était cool, tu vois, a posteriori, mais c'est très dur. Pareil, parce que, comme beaucoup, en fait, c'est un échec. Tu le réalises pas encore, mais c'est un échec et t'es seul, en fait.
Sur le moment, tu le voyais pas comme ça, justement. Pour le moment, t'étais en mode excité avec la boîte et tout.
Tu te dis,
t'étais dans le déni,
je vais y aller aux États-Unis. Ouais. Je vais y aller aux États-Unis. Mais en fait, tu te mens à toi-même. Parce que depuis le premier jour, c'était la symbolique de... En fait, quand on te dit non pour quelque chose qui est... Tout est aligné, tu vois, toutes les planètes sont alignées. Et là, tu prends un non et tu dis, attends, en fait, je peux rater, quoi. Et le plus dur, c'est que j'étais pas vraiment dépendant, en fait. Tu vois. Moi, j'avais fait mon taf. J'avais eu un bon taf, j'avais choisi la bonne boîte, je l'avais lancé aux États-Unis, j'avais recruté, j'avais trouvé le marché. Tout était bon de mon côté. Et là, tu as un événement extérieur au-delà du Covid, l'immigration ou autre, qui te tombe dessus et qui te met des bâtons dans les roues, quoi. Et après, le premier rendez-vous à l'ambassade, qui était très dur. T'arrives à l'ambassade américaine, t'es reçu comme de la merde, tu vois, on peut le dire, t'es vraiment, t'es derrière une vitre sans teint, tu vois, et t'as un fonctionnaire qui te parle de l'autre côté et que lui, il se rend pas compte, mais le coup de tampon sur ton passeport change ta vie ou te libère de cette frustration que t'as depuis 6 mois seul, parce que t'es plus en France, t'es plus aux États-Unis, tu sais, tu parles à tes potes, alors ça se passe bien aux États-Unis, pas vraiment, et t'es pas en France non plus, donc t'es entre deux vies, en fait, et c'est hyper difficile. Et ouais, t'as un mec qui te manque de respect, donc je me rappelle, donc il te met un gros non, parce que le Presidential Act, tu peux pas aller à l'encontre de ce que veut le président, quoi, globalement. Et derrière, il te coupe le micro, quoi. Donc t'as un mec qui te dit non.
Casse-toi.
Limite, non à ton rêve de gosse, quoi. Et il te fait un signe de la main, dégage, quoi. Donc t'as ça, et c'est hyper violent. Tu sors de là, la première fois, ouais, t'es pas bien, tu coupes ton téléphone et... Après, t'es obligé d'appeler l'avocate pour lui dire, c'est pas passé. T'es obligé d'appeler la RH de Spendesk et après appeler tes parents, quoi, et de leur dire, non. Et t'as tous tes potes. Le plus dur, tu vois, c'est que t'as tous tes potes qui savent comment c'est important pour toi, ta famille, tes potes, même tes collègues. Et en fait, à chaque fois, ils te voient rater, quoi. Ils te voient rater. Après, j'étais un peu malade. Je pense que j'aurais dû arrêter plus tôt, mais j'ai tout fait, quoi. J'étais prêt à prendre l'avion, aller en Thaïlande, à l'ambassade, parce que là-bas, tu pouvais l'avoir. Donc, j'ai vraiment tout tenté. J'ai fait 4-5 rendez-vous. Mais voilà, après le Covid, il y a eu le deuxième, troisième, je ne sais même plus combien de confinements. Les ambassades ont commencé à réguler. Et ce qui me tenait, tu vois, c'est que mon rêve, c'était à 25 ans, je serais à San Francisco. Sauf que là, j'avais déjà célébré mes 25 ans en dehors et je me rapprochais de mes 26 ans, quoi. Et donc, j'ai eu mon dernier rendez-vous à l'ambassade. Enfin, j'aurais pu continuer, mais j'ai choisi que ça soit le dernier. C'était le 20 janvier 2021, du coup. Donc, presque 18 mois, tu vois, après avoir commencé à m'installer aux États-Unis. Et ouais, là, c'était le dernier rendez-vous. Ça passe pas pour les mêmes raisons, quoi. Ils te disent, non, mais ton visa est valide, on garde ton dossier ouvert, mais le jour où il n'y a plus le travel ban, donc le fameux le jour où tu peux voyager entre l'Europe et les États-Unis, tu pourras aller aux États-Unis, quoi. Bon, pour la petite anecdote, ils ont attendu octobre 2021, tu vois, pour ouvrir les frontières. Donc, j'aurais passé encore six mois de plus dans cet entre-soi. Et ouais, donc, et là, je prends la décision. Je me dis, vas-y, c'est bon, je vais faire mes 26 ans. Les US, c'était pour mes 25, j'arrête tout, quoi. Donc là, j'envoie un message sur WhatsApp, je rentre à Paris, je vais voir mon CEO et je lui dis, c'est bon, j'arrête les US. J'arrête
les US. C'était la goutte d'eau, c'était l'événement, ouais, c'est ça? Le fait de ne pas passer du coup ce cap-là que tu t'étais fixé, c'est ça? Donc, du coup, c'est 25 piges.
Ouais, c'était la deadline que je m'étais mis dans ma tête. Et là, on te dit, bah, peut-être. En fait, t'as que de l'inconnu. Et t'es plus dépendant, tu vois. Si c'était moi qui avais des étapes à accomplir de mon côté, monter un dossier, faire ça, je l'aurais fait. Mais là, t'es dépendant de quelqu'un pour réaliser un de tes rêves de gosse, quoi. Donc, tu dis, mais c'est hyper toxique. Et c'est difficile à retranscrire, mais t'es dans une période où t'es un peu sonné. Tu vois, c'est genre le matin, t'arrives plus à ouvrir ton ordi.
J'allais te dire, du coup, ça ressemblait à quoi un peu ces journées types?
Entre, quand entre le premier comme ça... refus, tu vois, en janvier 2020, jusqu'à la décision en janvier 2021, ah, tu vois, le Noël 2020 avec ma mère, tu vois, pourtant je suis quelqu'un de très positif qui fait plein de choses, elle te dit là, ça va pas, tu vois.
Ouais.
Et ouais, t'es isolé. Puis t'as aussi ce côté, t'es bloqué entre tes deux vies, tu vois. Donc t'as plus tes potes de Paris. T'as pas des potes aux US, quoi. T'es bloqué dans des pays qui sont magnifiques, des pays, mais toi, t'es pas bien, quoi.
Tu faisais quoi, du coup, entre deux, tu t'as fait, tu faisais du sport,
ouais,
t'essayais de te ressourcer, tu faisais
non,
quoi?
Non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, tu fais rien. Tu fais rien.
T'as envie de rien?
Non, tu fais rien. Je me faisais des petits voyages, mais même ça, tu vois, j'ai visité des pyramides au Mexique et tout ça, mais.
T'as pas cool. Le même goût, quoi.
C'est cool, mais t'es prisonnier, tu t'es enfermé dans ton rêve, en fait, et tu peux pas l'avoir. Et donc, du coup, tout est fade, en fait. Tout est fade, et t'es isolé. Et comme la point de vue géographique aussi, je me suis coupé de ma famille, coupé de mes potes. Et derrière, je n'avais pas reconstruit ma nouvelle vie, quoi.
Mm-hmm.
Donc, et tu vis en procuration ce que vivent les autres aux États-Unis, tu vois, ton équipe, tes clients et tout ça, mais t'y es pas.
Ouais,
t'y
tu
pas,
les quoi. As à hôtel ou tu les as sur Slack ou quoi.
Donc, mais... ouais, donc c'est ça. Et en fait, à partir de mon premier refus, là, j'ai vu que c'était chaud. Tu vois, là, t'as vraiment un mec en face de toi. Je sais pas si c'est du racisme, je sais pas ce que c'est, mais t'as vraiment un mec qui veut pas de toi, tu vois. T'as vraiment le pays qui te dit on veut pas de toi, quoi. Donc là, tu te dis, en fait, c'est fini. C'est fini. Après, tu t'accroches parce qu'il y a tellement d'enjeux, faut aller le chercher. Et c'est possible encore, tu vois, sur le papier. Mais derrière, ouais, là, tu tires sur le côté. Et après le premier refus, avant que je prenne la décision de tout quitter, tu vois, je prends un mois, je vais en Afrique, je vais au Rwanda, je loue un 4x4 et je fais genre 3 semaines au Rwanda, seul, au monde. À juste tu vois essayer de comprendre parce qu'il y avait les élections américaines à ce moment-là, tu vois, donc t'es tendu, plus ça a été magnifique celle-ci, quoi. Ça a été avec Trump qui reconnaît et tout, mais voilà, ouais, j'ai premier coupé. Je pense que je commence à en parler en novembre, tu vois, à mon boss, je lui dis de toute façon c'est fini les US.
T'avais déjà ça en tête, la graine avait commencé un peu à germer,
ouais,
déjà.
Je me voyais plus y aller et tu commences à avoir un tel dégoût, tu vois, de se dire c'est toxique, en fait, pour toi. Tu vois, faut se couper. Faut couper ce rêve-là. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Et après, ouais, t'as cet événement où, du coup, j'avais mes 26 ans et j'avais prévu de voyager. Tu vois, je voulais le faire en Jamaïque, aux États-Unis. Et bah non, en fait, mes 26 ans, ce sera pas là-bas, quoi.
Et le process pour couper, du coup, ce rêve et pour essayer de rebondir, du coup, ça a été quoi, alors?
Je suis sorti du dernier rendez-vous à l'ambassade. C'était 10h. Refus. 11h, j'étais avec mon CEO et j'ai dit, je me barre. Je démissionne.
Ça y est, t'avais pris la décision.
J'arrête d'être country manager aux États-Unis. Ils tourneront sans moi aux États-Unis. C'est fini, je vais plus aux États-Unis.
Ah, c'est la goutte d'eau, là.
Voilà, donc t'as ça. Ce qui est fait, c'est quand du coup, je refuse mon visa. Quand tu refuses ton visa, t'es interdit pendant 5 ans des États-Unis. Mais voilà, c'est pas grave, tu vois. C'est vraiment se dire, là, je t'y rentrerai, je n'irai plus, quoi. Mm-hmm. Je n'irai plus, c'est fini les États-Unis pour moi, quoi.
Avant tes 30 ans, t'y retourneras plus.
Ouais, même, je pense que là, ça y est,
t'es dégoûté.
T'es dégoûté, mais même, c'est de se dire. Je ne l'ai pas eu. Maintenant, il faut trouver un autre projet, quoi.
Mm-hmm.
Sinon, je pense que tu t'accroches à ce rêve-là toute ta vie et tu ne le reconstruis pas. Et donc, tu as toute cette phase-là qui est intéressante. Bon, je pense que j'ai repris 15 jours. Je pense que j'ai loué une moto et je suis parti, je pense, à un autre pays, quoi. C'est ce qui m'a sauvé, tu vois. À chaque fois, j'étais quand même dans des beaux lieux où j'étais libre. J'étais clandestin, ouais. donc j'étais libre, tu vois. Donc, je pouvais partir. Et ouais, là, je suis parti 15 jours. Au final, les 15 jours sont transformés en 3 mois de sans solde. Donc, tu vois, j'ai posé sans solde. Parce que j'étais toujours du coup embauché de Spendesk, mais plus country manager des États-Unis. Quoi.
Donc c'était de nouveau sur les contrats français ?
Même pas. Enfin... Là, j'étais en sans solde. Okay.
T'étais là, mais t'étais pas là.
J'étais là et pas là, quoi. Donc même les mecs sur Slack, j'étais là, pas là. Enfin, j'étais même plus sur Slack, mais il y avait mon nom, j'avais encore mon adresse email. J'étais et je savais pas ce que je voulais faire, quoi.
Ouais.
Et je pense que c'est un peu le premier conseil que je donnerais, c'est de tout couper. Se mettre une deadline, en fait, tu vois. Si j'avais pas eu cette deadline, j'aurais peut-être craqué, fait un burn-out en juillet ou autre. Mais, tu vois, j'aurais peut-être implosé, devenu fou. Je serais arrivé aux États-Unis, j'aurais même pas kiffé, tu vois, je pense. Le jour où ils m'auraient donné ça, je pense que j'aurais même pas eu de plaisir, en fait, avec tout ce que j'avais traversé. Et peut-être dans 10 ans, j'y retournerai. Mais... Donc, j'ai coupé, je me suis mis cette deadline, j'ai coupé. Et là, là, tu t'isoles vraiment. Mais tu te mets vraiment dans, dans cette question-là de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, tu vois.
C'est quoi mon nouveau rêve ?
C'est quoi mon nouveau rêve ? Et ce qui est très dur, c'est de construire un rêve à l'opposé. Tu vois, de se dire, ben voilà, je veux être aux US, maintenant je veux acheter une boîte dans le sud de la France, tu vois. Et en fait, de construire un rêve à l'opposé, je pense que c'est patcher quelque chose, mais ça va te ressortir derrière, tu vois. J'ai fait beaucoup de séances en thérapie, tu vois.
Mm-hmm.
Et en fait, il faut redéconstruire le rêve. C'est pourquoi j'avais envie de partir aux États-Unis. Pourquoi j'avais ce sentiment, tu vois, de voyager. Et en fait, tu reconstruis toute ta vie, quoi.
Avoir vraiment l'acceptation faite.
Exactement.
À 100%.
Ok, ça ne sera pas les États-Unis, mais si je le décortique, en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce côté américain ? Ben, il y avait ce côté, tu vois, réussite professionnelle, il y avait ce côté gagner beaucoup d'argent, il y avait ce côté être le premier de ma famille, tu vois, qui a un double passeport, qui part à l'étranger. Donc, tu vois, tu reconstruis tout ce côté-là. Et en fait, tu arrives à trouver des alternatives. Mais longtemps, tu vois, il a fallu 3 mois pour se dire, mais en fait, je peux remplacer San Francisco par quelque chose d'autre. Et en fait, ça sera le même rêve, en fait. Mmh. Parce que c'est les mêmes motivations quand j'étais jeune, c'est les mêmes ambitions. Et là-dessus. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu arrives à le pousser plus loin, en fait. Parce que du coup, ça, c'était un rêve, j'avais 18 ans. Maintenant, j'en ai 26. Du coup, j'ai franchi plein de paliers dans ma vie. Et du coup, tu peux l'amener encore plus loin, ce rêve-là. Et ça a été très dur. Ça a été très dur.
Les priorités ne sont plus les mêmes.
Exactement. Mais du coup, là, j'en ai retrouvé un et qui me correspond, qui est toujours avec du voyage. Tu vois, moi, je rêve de monter maintenant une boîte en Afrique. C'est le continent qui me fascine le plus. Ce ne sera pas les États-Unis. Et en fait, il a encore plus de sens, tu vois. Et tu sais, tu as Connect the Dots du fameux Steve Jobs, où il t'explique souvent qu'il faut trouver, en fait, c'est quoi l'étape d'après. Et pourquoi elle est liée à toutes les étapes dans le passé. Et en fait, le fait de remplacer, tu vois, un peu San Francisco, les US, par l'Afrique...
T'as décroché un maillon et t'en as raccroché un autre qui est encore plus important.
Exactement. Et sauf que derrière, il y a beaucoup plus de sens sur tout ce que j'ai fait avant, en fait. Et donc, ouais, et maintenant, je suis dans ce nouveau projet-là. J'espère que ça soit un échec ou autre, on verra. Mais voilà, j'y travaille et j'arrive à me projeter sur 10 ans, facile, quoi.
T'as retrouvé du sens.
J'ai retrouvé du sens et j'ai recompris pourquoi je voulais aller aux États-Unis. Pourquoi ça a raté et aussi qu'est-ce qui me manquait dans ce projet américain et pour en faire un autre, quoi. Et donc, ces 3 mois-là, ça a été vraiment de déconstruire ces étapes-là, de reconstruire des idées. Et ça met encore plus de temps.
Deux questions là-dessus. C'est enfin, une question qui va venir. Donc, comment tu as déconstruit du coup ces idées-là en 3 mois? Et tu as été soutenu aussi avant par ta boîte. Du coup, Spendesk, quand tu dis tu prends 3 mois et demi sans solde, ils ont été aussi, je pense, hyper bienveillants et ils ont eu beaucoup de compassion pour savoir que tu as traversé 1 an et demi là, de galère.
Et je pense qu'ils l'ont vu. Ils ont vu que j'avais plus de jus et ça a été repose-toi, prends soin de toi, réfléchis et donc du coup t'as eu ce côté-là et sur le déconstruire, c'est la chance que j'ai eue moi, c'est que je pouvais pas faire autre chose moi. Donc je pouvais plus, tu vois, donc t'es obligé de déconstruire ton rêve, sinon tu peux rien faire. J'avais lâché mon appart à Paris, j'avais pas d'appart, enfin j'étais vraiment dans une bulle, quoi. Donc j'ai été obligé de le déconstruire et moi, j'ai fait le choix, tu vois, de me faire suivre, tu vois, par une psy, quoi.
Mm-hmm.
Vraiment, où toutes deux semaines, tu vois, on se posait des questions, on réfléchissait ensemble.
Tu faisais ça en visio ?
Ouais, je faisais ça sur WhatsApp.
Okay.
Sur WhatsApp, on s'appelait sur WhatsApp. J'ai jamais rencontré, du coup.
Okay,
on s'est vu là à Paris il y a une semaine, quoi. Mais on a passé 6 mois vraiment à déconstruire, à se dire, ben, je suis bien, tu vois. Par contre, je ne comprends pas ce qui se passe et j'ai besoin d'aide. Et donc, j'ai vraiment, tu vois, on se posait des questions chaque semaine avec des petits ateliers. Je pense que c'est Apple Notes. Tu vois, ta recette, c'est d'ouvrir tes notes sur Apple ou sur Samsung, hein, d'écrire, en fait. Et de se dire, attends, pourquoi je rêvais de ce truc ? Qu'est-ce qu'il y a quand j'étais jeune qui a marqué ? Pourquoi je veux les États-Unis ? Et en fait, étape par étape, tu remontes sur tout le passé, en fait. Tu reprends tout le passé de ta vie. Une fois que tu es arrivé à tous tes traumas un peu d'enfance ou autre, on en a tous, hein, tu reviens et là, tu arrives à faire le futur. Mais tant que tu n'es pas repassé sur le passé, tu n'arrives pas à prévoir le futur. Et donc, ouais, donc, j'étais vachement. Moi, j'ai beaucoup voyagé, tu vois, je me suis isolé en Colombie. J'ai fait le Mexique, j'ai beaucoup voyagé là-dessus. Et donc, j'étais aussi beaucoup seul, même si tu fais beaucoup de rencontres. Ça sera un conseil, quoi. Mais du coup, tu es seul face à toi, tu as tes questions et tu as juste à reconstruire, quoi. Tu as juste à reconstruire, à te dire, OK, c'est quoi la suite, quoi. Et pourquoi je vais faire ça, quoi. Donc ça a été ça, ces 3 mois. Et au final, le résultat, ben, je suis revenu en juin 2021. J'ai été voir mon CEO pour la deuxième fois. J'ai dit, ben, là, c'est vraiment fini, quoi. Spendesk, c'est vraiment plus dans mes plans pour les 10 prochaines années. Je vais monter une boîte en Afrique. Enfin, je ne savais même pas à ce moment-là que c'était l'Afrique ou autre. Mais ça y est, Spendesk, ça ne fait plus partie du plan. Il faut que je vole de mes propres ailes, quoi. Et donc, voilà, j'ai démissionné, tu vois, après 5 ans du coup de taf dans cette boîte-là. Et je suis reparti en Amérique du Sud, je suis reparti en Afrique. Et c'est là que j'ai commencé à refaçonner, en fait. Et là, j'ai rencontré énormément de gens. Depuis juin, du coup, j'ai rencontré énormément de gens. Et des gens où tu arrives à te projeter sur eux, en fait. Et te dire, mais putain, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'adore ce qu'il a fait là. J'adore ce qu'il a fait là. Donc voilà, moi, ma recette, ça a été de beaucoup voyager, beaucoup rencontrer des gens et de me poser énormément de questions et de chercher des réponses et de m'entourer de gens pour trouver ces réponses-là, quoi.
Là, du coup, ces réponses-là, tu allais les chercher auprès de ces personnes. Tu rencontrais des gens dans quel but, du coup, pour essayer de comprendre, pour après façonner ton business, pour éventuellement recruter des gens, pour retrouver des partenaires.
Ouais, même pas. Au début, t'as vraiment se dire comment. Avant de se dire, je vais monter une boîte en Afrique, t'as se dire, attends.
Où c'est que j'ai déjà fait.
Ouais, c'est ça. Et en fait, tu rencontres des expats, peut-être des gens qui sont employés, mais qui vivent, tu vois, au Botswana. Ils te racontent comment c'est la vie au Botswana. Tu dis, mais putain, mais en fait, c'est ça que j'ai envie. C'est même plus kiffant que San Francisco, tu vois. Mm-hmm. J'ai rencontré des entrepreneurs en Colombie, tu vois, qui avaient monté une chaîne d'hôtels. C'est loin de la tech et de ce que je sais faire, mais tu dis, mais putain, mais c'est ça, en fait. Et en fait, dans chaque personne que tu rencontres, quand c'est un peu ciblé, tu viens piocher, en fait, et te le rajouter. Tu dis, mais tiens, lui, tu vois, il est marié à une étrangère. C'est exceptionnel, tu vois, c'est ça, j'ai envie d'avoir une culture, tu vois, j'ai envie d'avoir mes enfants d'une double nationalité ou autre. T'as quelqu'un qui a monté une boîte, qui a financé une école à côté de la boîte pour former les développeurs et tout, tu te dis mais ça c'est génial. T'as des gars qui ont choisi des villes comme Dakar, comme Cape Town, tu vois, tu te dis mais ça c'est des villes où j'ai envie de vivre, en fait. Et derrière t'arrives à rebondir parce que tu t'accroches aux histoires, comme tu l'as dit, et t'arrives à te projeter sur quelque chose de nouveau. Et je pense que dans les 10 prochaines années, maintenant je me suis fixé 10 ans, tu vois, avec faire des gosses, avoir vraiment, tu vois, ma ville, ma boîte, mes gosses en Afrique, ça va prendre 10 ans. Mais voilà, je suis reparti au moins pour 10 ans. Et du coup, là, t'es hyper actif. Là, tu reprends...
T'as repris goût, là.
Ah ouais, là, tu reprends goût et t'as envie de tout faire. T'as envie de tout faire, t'as envie de rencontrer 30 ou 40 personnes par semaine. T'as plus envie d'être dans ta grotte, quoi, seul au Mexique, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que tu vas te nourrir, en fait, du coup, d'humains, en fait. Tu vas chercher les ressources auprès de personnes et tu restes, encore une fois, pour, entre guillemets, lutter à cette forme d'échec, c'est tu restes en action. On le sent, là, depuis tout à l'heure. Tu bouges, tu voyages à droite, à gauche, tu rencontres des gens. Genre, comme tu dis, t'as eu tes phases où bah ouais, c'était dur d'ouvrir son ordi et t'as eu des phases hyper down où t'as plus de motif, t'as plus goût pour rien. Mais tu te forces quand même à te dire, je peux pas rester en boule, quoi. Si je reste en boule, je prends rien, quoi.
C'est bien de rester en boule.
T'as besoin de
se poser des questions.
Ouais.
Et tu vois, et moi, je me suis créé un petit comité, quoi, autour de moi pour me poser ces questions-là. Mais une fois que tu t'es posé les questions, t'as pas les réponses dans en boule, seul, à l'autre bout du monde, tu vois.
Tellement.
Et donc, pour aller chercher les réponses, il faut poser des questions. Et donc, il faut rencontrer des gens, il faut sortir, passer beaucoup plus de temps avec les gens proches. Tu vois, je pense que mes potes, ils ne m'ont pas eu pendant 9 mois. Tu vois, même sur WhatsApp, j'avais 150 messages sur WhatsApp, tu sais, la pastille. Je ne répondais même plus aux messages.
Tu n'avais pas envie de lire ?
Non, même pas. Tu vois, et en plus, la majorité des questions, c'est « alors ?» Tu n'as pas envie, tu vois.
Ouais.
Donc, et ouais, maintenant, je pense que je suis presque à jour sur mon WhatsApp, quoi. Donc, tu as envie et je rencontre 30 à 40 personnes par semaine. Et ça a été... hyper productif, cette deuxième phase, quand tu commences, en fait, la plus excitante, c'est quand tu commences à savoir qu'il y a quelque chose à la suite et que tu essayes de l'écrire, du coup, de se fixer, bah, ok, moi, ça sera géographiquement, j'ai pas encore le pays, tu vois. Je sais que ça sera en Afrique, j'ai un top 10 des pays, mais je sais pas encore, tu vois. Le type de business, je sais le type de business, le pourquoi je le fais, je sais exactement, et j'arrive à me projeter sur, ok, dans 10 ans, je suis là-bas, quoi.
Ouais, c'est la phase qui vient après l'acceptation, justement, la troisième phase d'échec qui est l'acceptation.
La construction qui est excitante, quoi.
Tu reconstruis, t'as l'envie, du coup, de changer et tu mets en place des petites actions petit à petit, du coup.
Donc, j'en suis en plein dedans, quoi.
Et c'est qui, tu parlais du coup du comité hyper important, on en parle aussi tout le temps dans l'échec, c'est l'entourage.
Ouais.
Tu dis que tu avais un petit comité autour de toi qui t'aidait justement à te reconstruire. C'était qui ? C'était de la famille, des potes, des collègues, c'était quoi ?
Ouais, du coup, j'ai pris une psy, tu vois, qui m'a vraiment suivi. Je me suis entouré de 3 personnes qui sont assez proches, qui avaient les mêmes challenges que moi, en fait, qui avaient besoin de reconstruire. Donc, on a tous travaillé en même temps. On a tous démissionné de nos boîtes, on a tous monté une boîte en même temps. Tu vois, on est tous dans cette même réflexion. Certains sont plus avancés ou autres. Mais du coup, on est 3-4 où chaque semaine, on s'appelle. En fait, on a dans le calendrier, on se partage comment on avance. Ça a été hyper fort. J'ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille. Tu vois, j'ai passé tous les confinements et tout à l'autre bout du monde, quoi. Donc, j'ai pris du temps vachement avec ma famille, mon père, mon frère, ma mère, tu vois, pour vraiment, et eux, les aussi beaucoup plus les inclure dans mes problèmes, leur partager ce que j'ai envie de faire. Et après, j'ai trouvé une copine, quoi, quelqu'un pour partager et pas être dans cette solitude, et quelqu'un qui avait ce même projet. En fait, et au moins, on le fait à deux et on va le construire à deux sur les 10 prochaines années, quoi.
C'est...
Donc, Donald Trump m'a au moins aidé à trouver la femme de ma vie, quoi.
Belle histoire, putain, il sert à quelque chose, Donald. Et putain, bah, trop cool. Putain, mais les galères que t'as enchaînées et l'enfer, du coup, de se dire qu'à chaque fois, c'est des facteurs exogènes, en fait.
Ouais.
C'est ça qui est dur, en fait. C'est de se dire, putain, genre, ça dépend pas de moi et il faut que je fasse avec. Il y a plein de merde qui me tombe dessus. Je fais tout ce que je peux.
C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Et le plus dur, de toute façon, c'est de se fixer un objectif. Moi, j'avais la chance d'en avoir un quand j'étais jeune. Tu vois, je te disais au début, l'échec, c'est de ne pas réussir quelque chose qu'on veut, tu vois. Mais le vrai problème, en fait, et souvent, je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se fixer, tu vois, ces objectifs-là. Mais ouais, quand tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est très dur de passer d'un objectif à l'autre. Quand tu réussis à l'avoir, c'est facile d'en fixer un deuxième. Mais quand tu n'arrives pas à l'avoir si proche du but, tu vois, parce que tu as l'impression que c'est un coup de papier sur ton passeport, quoi. Et ouais, c'est vraiment ça qui est très dur de rebondir, quoi.
Pour partir à zéro avec des meilleures bases, comme tu l'as dit, tout reconstruire, hein, c'est facile à dire comme ça, c'est sûr, mais ça prend du temps. Là, on le voit, ton cheminement, tu as fait 6 mois, tu as dit, de thérapie qui t'ont vachement aidé. Ouais. Et t'entourer, et aller chercher de l'info, et rester en mouvement, encore une fois, primordial, quoi. Rester en mouvement. C'est quoi les 3 conseils que tu filerais à des gens qui sont justement en galère comme ça, peut-être pas dans la même situation que toi, parce que c'est pas non plus hyper commun de se
faire têche. Non, il y en a beaucoup sur l'immigration, dans d'autres proportions, mais malheureusement, les États et l'immigration bloquent le rêve de beaucoup de gens, quoi. Donc, il y en a pas mal. Non, les 3 conseils que je pourrais donner, c'est vraiment de... Le premier, c'est de s'entourer, tu vois. Une fois qu'on a passé cette phase dans sa grotte, quoi, s'entourer de gens. Moi, j'ai fait le choix de faire appel à des professionnels, quoi. J'ai mis du temps à la trouver, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai lu beaucoup de livres et je suis tombé, tu vois, sur quelqu'un. Je me suis dit, OK, c'est elle où j'ai envie de raconter ma vie et qu'elle m'aide à répondre à mes questions, quoi. S'entourer de gens qui sont dans les mêmes difficultés que nous. Ça aide énormément. Donc le premier conseil, ça serait de s'entourer de gens, vous l'avez compris. Le deuxième, ça serait de se mettre une échéance, en fait. Parce qu'un échec, tant qu'il n'a pas une date de fin, on le subit, en fait.
On ne passe pas à autre chose.
Donc il faut vraiment se mettre une date, et très tôt, je l'ai peut-être fait assez tard ou inconsciemment, mais vraiment se mettre une date. Et une fois qu'on s'est mis cette date-là, honnêtement, si ça ne passe pas, il y a très peu de chances que ça passe après cette date. Donc ça serait le deuxième conseil, c'est vraiment de se mettre une date. Et le troisième, c'est de s'inspirer de beaucoup d'histoires des autres. C'est très dur, en fait, quand tu es seul sur une page blanche, d'écrire, en fait, quel sera ton avenir. Et quand je vois, tu sais, aux gosses, quand tu leur poses des questions, tu veux faire quoi de ta vie et tout, c'est impossible d'y répondre, en fait. Et c'est pareil à n'importe quel âge qu'on peut avoir. Et donc, c'est de rencontrer des gens, mais vraiment loin, tu vois, on dit souvent rencontrer vos pères, tu vois. Non, rencontrer des guides dans la jungle, tu vois, au Rwanda, un escaladeur au Rio, tu vois, rencontrer des profils que vous imaginez jamais que vous allez rencontrer. Et vous allez, c'est ouf comment tu vas réussir à, tu vois, il y avait un escaladeur, un mec, tu vois, professionnel climber, tu vois, à Rio. Putain, mais tu te dis, mais je peux prendre la moitié de sa vie, quoi, je kifferais, quoi. Et donc, t'inspirer de gens qui n'ont rien à voir avec toi, et opportuniste, et faire des rencontres comme ça.
Trop stylé. Petite question, du coup, ça me vient, ça que je ne te l'ai pas posé avant, tu t'en as un petit peu parlé. Du coup, ta psy, ce que tu dis aussi, tu as pris du temps avant de l'accepter et de trouver quelqu'un. Je pense que c'est le cas de plein de gens. Il y a plein de gens qui pensent éventuellement prendre un psy pour les aider et qui ne franchissent pas le cap ou qui ne trouvent pas. Toi, du coup, tu as trouvé comment? Tu dis en farfouinant un peu
J'ai toujours été passionné, moi, un peu de psycho. Tu vois, je n'ai pas eu peur. Donc, je pense qu'il faut enlever cette peur. Et j'en avais fait quand j'étais très jeune. J'étais un enfant à problème. Donc, tu es obligé d'aller en voir, quoi, quand tu fous le bordel en cours. Mais derrière, j'avais pas cette peur-là. Par contre, je savais qu'il faut une vraie relation avec cette personne-là. Il faut quelqu'un qui peut vraiment comprendre ta problématique et t'aider là-dessus. Donc moi, c'est un autre entrepreneur, tu vois, qui m'a partagé. Il est venu sur ton podcast, d'ailleurs.
Oh.
Donc c'est un autre entrepreneur qui m'a conseillé de lire un livre et de rencontrer cette personne-là. Et en fait, je dis souvent, rencontrez-en. De toute façon, en plus, maintenant, c'est remboursé par la mutuelle et bientôt par la sécurité sociale, quoi. Donc, faites une séance avec 3-4 personnes différentes et vous allez le sentir. Et après, fixez-vous le rythme. En fait, c'est un outil. Tu vois, je pense que les gens, ils ont en tête que un psy, c'est vous allez avoir, on va vous poser des questions, on va faire. En fait, non, c'est vous qui utilisez le psy pour aller atteindre un objectif.
C'est toi qui trouves tes propres
réponses. Donc voilà, c'est un peu démystifié. Aujourd'hui, financièrement, c'est remboursé par la Sécu ou par les mutuelles. Il y en a beaucoup qui ont écrit des livres, qui ont fait des TED Talks, qui ont fait des vidéos sur YouTube. Donc peu importe là-dessus. Et moi, j'arrive à le faire en voyageant parce que je le fais sur WhatsApp toutes les 2-3 semaines. Donc c'est hyper simple aussi à faire, quoi.
Trop stylé. Écoute, c'est une bonne pratique, je pense, pour ceux qui ont du mal à franchir le cap. Trop bien. Bah écoute, Jérém, merci pour cette histoire de ouf, clairement. Première fois qu'on parle un truc comme ça dans le podcast, donc trop bien. On passe à la suite de l'interview avec les questions pour la mention.
Questions pour la mention.
Et la première question pour toi, Jérém, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ?
Je pense qu'il faut être curieux. Ça, c'est la première vertu parce que on est peut-être pas où on a envie de vivre. On n'a pas le job qu'on a peut-être envie d'avoir. Donc, c'est rester curieux pour trouver en fait sa philosophie de vie, quoi. Trouver ce qu'on a envie d'accomplir. Le deuxième, je pense qu'il ne faut, je sais pas, l'opposé de timide. C'est ne pas être timide, quoi. Je te laisserai. Je sais que t'es très bon pour trouver des termes de vertu, mais je pense que la timidité est un vrai danger, quoi. De s'interdire plein de choses, en fait, de contacter une personne parce que elle est dirigeante d'une belle société ou parce qu'il est à l'autre bout du monde. Ne pas être timide et vraiment aller à la rencontre des gens, quoi.
Ouais, d'être hyper sociable un peu.
C'est ça. C'est difficile d'être sociable. Alors ouais. Que ne pas être timide, c'est plus simple, quoi.
Ouais, clairement.
Et après, la dernière, c'est de. Je pense que c'est une vertu, c'est d'être un peu baroudeur. T'en as reçu quelques-uns sur le podcast. Mais ce côté de voyager, pas que on est dans un magnifique pays et je suis fier d'être français, mais il y a tellement de choses à aller piocher un peu partout avant de savoir ce qu'on veut faire, quoi. Et donc de vraiment aller à la rencontre des gens, mais à l'autre bout du monde, et voyager, voir d'autres cultures, voir d'autres philosophies. Et ouais, ça c'est une vertu d'être curieux et baroudeur, quoi.
Ouais, avoir de l'audace, quoi. Du coup, exactement. Être audacieux, tenter des trucs, quoi, et réfléchir après coup, quoi.
Exactement.
Pas se mettre trop de barrières. Ok, écoute, des belles vertus. Jérém, prochaine question, est-ce que tu as un bouquin, si tu as peut-être beaucoup lu pendant tes phases, là où tu étais solo?
Ouais, moi je suis un très mauvais lecteur, même si je me suis forcé à lire certains. Par contre, il y avait un documentaire que j'avais regardé en pleine période de bad, tu vois, quand j'étais confiné au Mexique seul. C'était un biopic sur... c'est pas un biopic, ils ont suivi Teddy Riner pendant 2 ans. En fait, donc le plus grand judoka français. Je suis pas fan de judo particulièrement.
Mais on est fan de Teddy Riner, quoi qu'il
arrive. Ouais, mais en fait, faut vraiment que tu le vois là-dessus ou que t'invites, tu vois, Teddy Riner. Mais ce qu'il a subi en fait pendant ces 2 dernières années où il avait une caméra derrière lui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et c'est une leçon, je pense, pour tous ces gens-là qui se posent, qui se remettent en question. C'est un épisode du Phoenix, tu vois, mais à grandeur nature, où ils l'ont suivi 2 ans de sa vie. Voilà, c'est quand il s'est préparé pour les JO de 2020 qui ont été décalés et tout.
C'est
ça.
C'était sur France Télé, je crois.
C'était sur France Télé.
Monstrueux.
C'est exceptionnel.
Ouais, il est monstrueux.
Et la puissance de ce gars-là. En fait, et tu te rends compte que c'est pas physiquement qui broie les autres.
Il est
en fait, c'est dans sa tête. Et comment il s'est préparé, en fait. Et ce gars-là, il ne vivra plus jamais l'échec, quoi. Enfin, il en vit au quotidien, hein, des vrais. Mais voilà, la préparation, et je pense qu'il donne des conseils hyper actionnables pour tous ces gens-là. C'est, moi, ça a été une leçon de voir ce gars-là et de se dire « Ok, je comprends pourquoi c'est le meilleur sportif qu'on ait jamais eu, presque. »
D'accord. Putain de documentaire, il fout les frissons, t'as dit là-dessus. Bah écoute, dernière question. C'est quoi ton prochain objectif, même si je pense qu'on en a un petit peu parlé pendant, c'est d'ouvrir du coup une boîte en Afrique.
M'installer et monter une boîte de logiciels en Afrique. Et je suis en pleine recherche de quel pays et quelle ville dans ce magnifique continent.
Bah écoute, franchement, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Jérém. À chaque fois je vais oublier, petit rituel de fin. Est-ce que tu peux résumer en une grosse punchline de fin là ce qu'on s'est dit depuis une grosse trentaine de minutes?
On a tous des rêves de gosse, plus ou moins enfouis en nous. On a tous peur de les réaliser. Quand on essaye de les réaliser, parfois ça rate, mais on en a plein d'autres de rêves de gosse. Et en fait, on est juste un gosse avec plein de rêves et il faut tout tenter, rencontrer des gens pour continuer à vivre ces rêves de gosse, quoi.
Et bah, boum, trop stylé. Jérém, merci beaucoup d'être venu.
Merci,
merci d'avoir partagé tout ça. Hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses à piocher dans ce que tu as dit pour les gens qui ont écouté. Tout le meilleur pour la future boîte. Et à bientôt, mec.
À bientôt.
Ciao, ciao. Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec 2 actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcasts, comme tu sais. Et la deuxième, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je ne suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.